France Culture.
La science au labo.
En salle d'expérience, Sarah Ducci, professeure à l'Université Paris-Cité et directrice de recherche au CNRS, développe une méthode pour optimiser la transmission de l'information quantique, la génération de photons intriqués avec des matériaux semi-conducteurs, en exploitant par exemple les propriétés optiques d'une puce d'arsénure d'aluminium de gallium, il est possible de générer, contrôler et manipuler des paires de photons intriqués afin de décupler le potentiel de protocoles de communication et de calcul quantique.
Si on génère des paires de photons dans la gamme des télécommunications et que les signaux des photons s'étalent sur un spectre de longueur d'onde ou de fréquence assez large, on peut utiliser un grand nombre de canaux en parallèle pour transporter cette intrication. Et donc, cette propriété d'intrication peut être mise à profit entre plusieurs utilisateurs qui, eux, auraient accès chacun à un canal de fréquence différent et donc recréer un multiplexage dans la distribution d'intrications comme on a un multiplexage sur Internet, effectivement.
C'est un peu les prémices de l'Internet quantique.
C'est un petit peu, voilà, exactement. C'est un peu dans ce but-là qu'on travaille. Parmi les projets que nous avons, par exemple, on est en train de mettre en place un lien fibré entre notre campus et le campus de Sorbonne Université, donc l'équipe de l'ENI Diamanti au Lipsis.
Ça fait quoi? Ça fait 3 km?
Alors, ça fait quelques kilomètres seulement, mais la fibre qui passe dans les sous-sols de Paris, finalement, fait 14 kilomètres. Donc, si on compte l'aller-retour, ça nous fait déjà 30 kilomètres des liaisons fibrées, dans une architecture métropolitaine, donc c'est une belle preuve de concept. Et donc, effectivement, actuellement, les photons partent d'ici, font 30 km dans les fibres sous Paris et reviennent ici et sont toujours intriqués. Donc, ça commence effectivement à être quelque chose qui s'approche de la réalité.
Okay, ils partent d'ici, mais littéralement ici, puisque la salle blanche, elle est juste à côté. On y va?
Alors, on y va. Un petit couloir et on arrive salle d'expérience.
Alors, verrouillée
avec une boîte à clés pour l'instant cryptée classiquement.
Pour le moment. Tire le rideau.
Hop, voilà le rideau. Alors ici nous sommes donc dans la salle, dans une des salles de notre équipe, où il y a plusieurs tables optiques dédiées à différents types d'expériences. Voilà, là où on entend aussi les compresseurs qui servent effectivement à avoir ce détecteur dans les cryostats.
Dans cette grosse boîte noire.
Exactement, dans cette grosse boîte noire, vous voyez qu'il y a plein de fibres jaunes qui arrivent. Et en fait, ce sont les fibres qui viennent de toutes les tables de manip que nous avons et qui transportent des photons uniques qui sont détectés ici par des détecteurs supraconducteurs, qui sont très efficaces, qui ont une efficacité de détection entre 85 et 90%, donc nous permettent de mesurer avec grande efficacité nos signaux. Et puis effectivement, on garde tout ça refroidi et isolé aussi d'un point de vue du bruit pour les utilisateurs de la salle. Par exemple, nous avons une expérience dans laquelle la lumière du faisceau laser qui est utilisée pour éclairer l'échantillon peut être modulée, donc on peut varier le profil d'intensité, la phase du faisceau, et cette manipulation du faisceau de pompe s'imprime directement sur les corrélations que les photons intriqués emportent avec eux. Et ça, effectivement, nous donne une grande versatilité à l'état que nous pouvons générer. Et ça nous a permis de découvrir aussi la possibilité de faire de l'ingénierie d'état quantique de la lumière avec des propriétés parfois un peu étonnantes grâce à cette capacité de manipuler la fonction d'onde. Donc par exemple, d'envoyer des photons dans un séparateur de faisceau et d'obtenir un comportement qui pourrait être celui de fermion plutôt que celui de boson ou alors d'agnon. Donc vraiment, cette
capacité... Qui n'est ni un boson ni un fermion, mais qui est entre les deux.
Qui est entre les deux, une particule qui est entre les deux. Et donc les photons à la sortie de ces séparateurs de faisceaux peuvent chacun prendre un chemin différent, ou alors les deux aller dans le même chemin, ou alors... des situations encore plus exotiques selon le retard qu'on impose entre l'arrivée de l'un et l'arrivée de l'autre. Et donc ça nous donne vraiment une grande versatilité pour les états quantiques qu'on peut produire avec ce dispositif.
Et au niveau du calcul quantique, est-ce qu'il y aura des applications intéressantes aussi ?
Au niveau du calcul, il y a sans doute l'intrication qui est une des ressources fondamentales pour faire du calcul quantique. Donc, arriver à produire avec une grande efficacité des photons intriqués est sans doute une ressource intéressante. Est intéressante aussi de s'intéresser à quelles propriétés de la lumière on utilise pour encoder ce type de corrélation. Est-ce la polarisation, la fréquence ? Il y a des degrés de liberté, par exemple, qui sont décrits dans un espace de Hilbert de dimension 2. Et il y a d'autres degrés de liberté qui ont un nombre d'états possibles plus grand que 2. Et donc, ils permettent d'utiliser, si on veut, un alphabet encore plus grand que quelque chose qui serait en dimension 2. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, ça ouvre aussi des questions intéressantes à l'utilisation, non pas de bits quantiques de niveau qubit, mais... Qudite, avec des états possibles pour l'état utilisé. Et par exemple, la fréquence, c'est un bon degré de liberté, une bonne propriété pour jouer de ce point de vue, parce que voilà, on peut avoir un spectre de fréquence large et donc utiliser ça comme un terrain de jeu de dimension plus grand que la polarisation qui a dimension 2.
Science au Labo, un podcast France Culture. Abonnez-vous pour retrouver chaque jour un nouveau reportage.